des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. C'est de l'Italie et de la relation que l'écrivain Émile Zola entretenait avec ce pays que nous allons parler dans cette émission en compagnie de Giovanni Dottoli, professeur de langue et de littérature française à l'université de Bari, qui a consacré un livre aux voyageurs français en Italie intitulé « Le jardin d'Italie », paru aux éditions Honoré Champion en 2008, à la fin de l'année 2008. Et parmi les voyageurs français célèbres qui furent fascinés par l'Italie, il faudrait en citer de nombreux, de Chateaubriand à Flaubert, de Stendhal à Yves Bonnefoy, de Lamartine à Albert Camus. Et parmi nos académiciens actuels, Pierre-Jean Rémy, Dominique Fernandez, on ne peut les citer tous. Aujourd'hui, avec Giovanni Dottoli, nous évoquons Émile Zola. Bonjour Giovanni Dottoli.
Bonjour Madame Renard, bonjour à tous les auditeurs. Je suis content d'être encore une fois là, parler de cette série d'actes d'amour des Français et des académiciens, notamment à l'égard de l'Italie.
Alors, Émile Zola, on va rappeler qu'il n'était pas académicien d'ailleurs, mais enfin c'est quand même un grand de la littérature, mais qu'il était par contre, par ses origines paternelles et comme son nom peut le laisser entendre, d'origine italienne. Alors son père, Francesco Zola, avait servi dans l'artillerie italienne. À 17 ans, il s'était engagé en qualité d'officier dans l'armée du prince Eugène. Et quand Venise est passée sous la domination autrichienne, après la chute de Napoléon Ier, le père de Zola a pris un métier civil, si je puis dire. Il s'est mis à écrire, donc le père et le fils, on sait de qui tenait son talent. Puis il a décidé de s'expatrier et en se fixant en France, il a épousé une jeune fille du nom charmant d'Émilie Aubert et de ce mariage naîtra leur fils unique, Émile Zola, qui naîtra à Paris mais qui passera son enfance à Aix-en-Provence. Voilà, j'ai résumé un petit peu, Giovanni, la vie brièvement d'Émile Zola, pas en tout cas sa vie littéraire. On le connaît comme romancier, comme écrivain, comme journaliste engagé. Et vous allez nous parler du voyageur en Italie. Alors, quand est-il allé en Italie pour la première fois ?
Bon, il est allé en Italie autour de 1894. Et notamment à Rome, parce qu'il voulait préparer un livre sur Rome. D'ailleurs, ce livre existe, Rome, c'est le titre lui-même de ce roman. On peut oublier, il faut le dire, mais qu'il faudrait relire parce que c'est un ouvrage fondamental, non seulement en ce qui concerne Rome, mais surtout en ce qui concerne l'Italie de l'époque, qui, à ce moment-là, n'avait que 24 ans d'unité. Donc, c'était la jeune Italie qui commençait un peu à entrer dans le concert de l'Europe. Donc, c'est l'Italie, en ce qui concerne Rome, qui passe de l'État pontifical ou des États pontificaux. On sait que le gouvernement italien réussit à conquérir Rome grosso modo à l'époque de la Commune, donc 14 ans avant, et c'est à partir de quelques années après que la capitale passera de Florence, elle était avant au début à Turin, de Florence à Rome. Donc c'est une Italie qui est vraiment à un moment stratégique de passage de l'histoire qui portera la Première Guerre mondiale. C'est cette Rome et cette Italie qui sont pleines de travaux, de changements, les chemins de fer qui naissent, les routes. Donc il faut construire un nouveau pays, un pays moderne qui puisse réellement entrer en Europe. Alors Zola, qui, comme vous venez de le dire très justement, est à moitié italien, parce que son père, bien sûr, était italien, il avait choisi la France, pour des raisons politiques, disons, eh bien, son fils gardera toute sa vie ce lien avec la patrie de son père. Et on voit ce rapport non seulement le long de ses romans, mais surtout dans le gros roman Rome. C'est un tome énorme, ce livre.
Il est gros, mais alors il ne compte pas parmi ses plus connus, évidemment.
Pas connu, mais qu'il faudrait lire. parce que c'était mystère toujours pourquoi et comment tel livre a du succès et un autre livre ne l'a pas. D'ailleurs, ce n'est pas la valeur qui compte. De fait, de temps à autre, on découvre 100 ans après un chef-d'œuvre. Donc, ce n'est pas la valeur qui nous dit pourquoi et comment un livre est important.
Et alors, ce roman, c'est un roman.
C'est un roman
qui se passe
une sorte
à quelle époque
de...
À l'époque de Zola.
Donc, c'est la ville de Rome qui se prépare à devenir la grande capitale. Et ce qui est étonnant, c'est que Zola comprend beaucoup de choses des Italiens et surtout de l'Italie du XXe siècle qui va venir encore. Par exemple, il y a des pages qui annoncent un peu Mussolini, qui annoncent un peu une Italie fasciste, une Italie qui est prise par la mégalomanie, par la vanité, par le lien avec la romanité, donc ce retour de Rome qui sera l'axe central du fascisme. Et probablement, c'est même une des raisons pour lesquelles ce livre n'est pas tout à fait connu.
Oui, mais sans doute, oui.
Ce qui nous intéresse énormément, c'est d'un côté l'aspect humain, parce que c'est un roman où il traite les Italiens tels qu'ils sont, donc avec leurs honneurs, leurs qualités et surtout leurs défauts. Par exemple,
quelques-uns,
mais il y en a. Par exemple, déjà, Stendhal avait noté, on obtiendra tout d'un ouvrier romain, excepté le travail.
Ah alors, bon, d'accord.
Il avait été un peu méchant. Et en ce qui concerne Zola, là, il note dans ce roman déjà le grand problème de la séparation du Sud du Nord. Le Sud qui a ses qualités et ses défauts, un peu africain, un peu lent, le climat, le soleil, etc. Il ne faut pas oublier que nous sommes à l'époque où les théories d'Hippolyte Taine sur le climat étaient très à la mode. Mm-hmm. Et donc Zola, qui est un peu pris par son naturalisme, par les théories de Taine aussi, donc il traite le Sud comme un monde un peu ignorant, paresseux, qui se consacre à la joie immédiate de vivre, qui a un désordre enfantin, qui aime l'éclat vide des belles paroles sonores. Ce sont des mots de Zola. Donc. Et en même temps, il traite le Nord comme la partie du pays qui est travailleuse, économe, politique, avisée, bien lancée sous les grandes idées modernes. C'est tout juste l'époque où on commence à penser à Fiat, à Turin, donc à la naissance d'une grande industrie automobile. Donc à ce point de vue, Zola a compris le problème d'Italie. C'est déjà le Midi, avec ses problèmes politiques, et le Nord, qui est très européen et très industriel. Il y a des pages puis formidables concernant les femmes. Alors là, Zola, probablement, est un des plus grands metteurs en scène de la femme italienne, et notamment de la femme romaine, du centre de l'Italie, sur l'axe de Chateaubriand et surtout de Stendhal. Non seulement il souligne la nuit de vivre à Rome, dans cette ville qui, depuis toujours, est très liée à l'ancien, à l'antiquité, et donc qui n'arrivait pas à s'axer sur la modernité. Et Zola a bien compris cet aspect. Et donc je disais que, surtout en parlant des femmes, il se rend compte que les femmes sont les êtres les plus modernes. Il n'y avait pas encore de divorce à l'époque, on est en pleine église catholique, en plein catholicisme à l'ancienne, mais il remarque que les femmes sont très ouvertes, qu'elles s'en fichent totalement de la moralité et des traditions et de la leçon du pape et des cardinaux, qu'elles vivent leur vie tout en restant vierges. Il souligne cet aspect de la virginité, mais en même temps, il souligne cette ouverture, cette sensualité de la femme romaine, le sens de la fête, de la passion, de l'aspect, disons, charnel et de la matérialité de la vie des femmes à Rome, mais toujours sans dévergondage, disons, toujours la recherche du plaisir, d'après cette lignée que j'ai repérée concernant le jardin d'Italie. Les femmes sont des personnages fondamentaux du jardin d'Italie. Mais Zola n'a pas visité seulement Rome.
Ah,
il a été fait à Naples et à Florence et à Venise surtout. Et en ce qui concerne Naples, par exemple, c'est l'un des premiers à comprendre la ville. Cette ville très méditerranéenne, très ouverte sur la chaleur humaine, mais qui a des problèmes d'urbanisme immenses, que de nos jours encore existent. Et il avait déjà remarqué le problème des ordures, dont toute la presse mondiale a parlé il y a un an, et que, heureusement, on a réussi à résoudre maintenant. On le voit se promener le long des quartiers espagnols, c'est des quartiers de Naples très connus, où les rues sont très étroites et qu'il ne faut pas visiter. Même de nos jours, on dit qu'il ne faut pas visiter, c'est dangereux. Au contraire, lui, là, il pénètre ces rues, il décrit l'intérieur des maisons, les femmes sensuelles, encore une fois, napolitaines, la chaleur des gens, les restaurants. Il ne faut pas oublier que c'est l'époque où naît la pizza margherita à Naples.
Ah, donc, ça, c'est un événement.
Il en parle un peu. La pizza existait déjà, bien sûr, parce que Dumas en parle très bien. Il a consacré à Lisandro Dumas des pages magnifiques à la pizza napolitaine. Mais grâce à la visite de la reine d'Italie, Marguerite, le pizzaiolo du restaurant, de la pizzeria, a l'idée de donner le nom de la reine à la pizza. Et c'est tout juste au moment où Zola visite Naples que cet événement mondial, parce que ça va...
Tout le monde en a mangé, ça c'est sûr.
Ça va s'élargir au monde entier. On pourrait lire quelques
éléments. Oui, lisez-nous quelques extraits de Zola, donc Rome.
Par exemple, pour Rome, on parlait de cette ville qu'il voit d'une façon magnifique, et il écrit « Les liaisons s'éternisant, finissant généralement mal, par de la jalousie et des coups, donc par des femmes et de l'amour. Pas l'amour ailé, léger, capricieux, un plaisir qu'on prend, qu'on laisse, mais une passion continue. Et avec cela, un fond pratique, la femme ne se perd pas dans les nuages, ne rêve pas, veut la matérialité des choses, la possession, d'où sa passion vivante et charnelle, sa jalousie aussi, capable d'une longue fidélité, d'une longue attente pour posséder. » Donc, on a la confirmation de ce que je viens de dire. Il y a un autre passage que je voudrais souligner aux chers auditeurs, donc Florence, par exemple. Là, il voit cette ville trop calme et trop retraitée. Ville calme et de retraite. Les militaires retraités, les comédiens qui ont renoncé aux planches, tous ceux qui ont des rentes à manger, viennent y finir doucement la vie. Une ville douce, tranquille, d'aimable insouciance, les quatre vers italiens. Quand Turin voit la cour partir, elle se révolte et sanglote. Quand Rome voit la cour arriver, elle exulte et applaudit. Mais que la cour vienne ou qu'elle parte, Florence s'en moque. C'est tout le scepticisme, le je m'en foutisme de la ville, aucune passion, un fond d'égoïsme aimable et d'insouciance légère. Tout à la douceur de vivre, indolente et endormie. Donc, je pense que là, il ne se trompe pas, parce que Florence est vraiment une ville un peu comme ça, une ville qui se considère un peu au-dessus des autres. Alors, il y a ce je m'en foutisme dont parle Zola.
Donc Zola a vraiment un talent pour percevoir les atmosphères et les décrire.
Absolument. Hein, et surtout, il y a une page concernant Rome que je considère fondamentale. C'est une page étonnante où il parle du célèbre quartier de Trastevere ou Trastevere. Et là, il utilise une sorte de langue futuriste. Il fait la liste de ce qu'il voit sans vraiment intervenir. Donc, c'est une liste de mots, comme le fera Marinetti dans les Paroles à liberté de sa poésie et de ses romans et contes. Alors, je lis ce passage. Alvero Frascati, salumerie, je lis les mots à l'italienne, salaison, odeur forte, petits ânes, traînant des voitures de légumes, des étalages de pauvres fruitiers, pommes de pin dans un vieux panier, tomates sur une planche, et le trou noir et humide de la boutique, quatre dindes qu'un homme conduit à coups de fouet, et un grouillement d'enfants, sales, à demi-nu, la fécondité, le pullulement de la misère, des femmes en cheveux, en fichu et en jupe sale, toutes noires et sales, hommes en manches de chemise de couleur, et en pantalon sale, vino dei castelli, barbiere, des chats noirs sur des marches. Donc,
Il n'y a tellement de choses. Oui.
C'est une liste comme si c'était une annuaire téléphonique, des paroles à liberté. Mais pour qui connaît le quartier, ça correspond exactement à la réalité. C'est-à-dire un étalage de choses l'une après l'autre, l'une à côté de l'autre, sans ordre. Et ça donne l'idée d'une Rome désordonnée, disons, mais qui en même temps est bien du côté du peuple. Parce que ça, là, c'est le peuple qui vit à Trastevere. Et je profite de cette occasion pour dire que c'est tout juste l'endroit où est né Apollinaire. Apollinaire est né à Trastevere, donc dans ce monde-là, très mélangé, que l'on retrouve dans toute la poésie d'Apollinaire. Donc il a passé ses premières années dans ce monde très populaire, d'où cette poésie très moderne, mais en même temps très simple et très liée aux choses matérielles de la vie et même à la sensualité. Les lettres à Lou et toute la poésie d'Apollinaire sont pleines de sensualité. Donc, je pense que probablement Apollinaire a dû lire cette page magnifique de Zola concernant le quartier où il venait de naître, parce qu'il était né quelques années avant. Ils ne se sont pas rencontrés parce que Apollinaire était déjà parti de Rome à Monaco avec sa mère. Donc voilà le lien entre Zola et l'Italie. C'était un lien ardent, absolu, romanesque, parce qu'il passe tout cela dans le roman. Mais il y a un autre côté qui est un peu oublié et dont il faudrait vraiment parler, qui mériterait une grande attention. Zola était très attentif à la modernité. D'ailleurs, il parle des chemins de fer, etc. Le Paris de l'époque, l'industrie de Paris, de la France, les problèmes des ouvriers, tout ça, donc c'est connu. Mais on connaît moins le Zola très attentif à la photographie.
Ah oui.
Et donc à la machine. Donc, c'est une machine photographique que Rimbaud réclamait quand il était là-bas en Afrique et à Aden. Eh bien, il a pris beaucoup de photos à Naples, à Rome et à Venise. Il y a des photographies qu'il a prises à Naples qui sont connues, mais la plupart ne sont pas connues. Donc, tous ces matériaux mériteraient un très beau livre. Zola, photographe de la vérité italienne de l'époque, ce que je viens de dire en ce qui concerne Rome. Venise, par exemple, il y a cet élément, encore une fois. Lui aussi, il voit Venise un peu comme Cocteau, comme la ville morte, la ville de la mort à Venise. Et j'ai retrouvé le passage où il parle de Venise et il dit « Ce qui a fait sa force, son isolement au milieu du flot, fait aujourd'hui sa faiblesse et sa mort. » Voilà, il parle de mort, vraiment. « Aucune résurrection possible. » C'est une ville bibelot, une ville curiosité qu'il faudrait mettre sous verre. Et c'est étonnant parce que c'est ce qu'on est en train de faire maintenant.
Oui, absolument.
C'est devenu une ville protégée par l'UNESCO, dont les monuments risquent de mourir à cause de l'eau. Le gouvernement italien est en train de monter un projet immense qui s'appelle le MOSE pour bloquer les eaux au large de la mer Adriatique. Mais l'eau pénètre partout. Il n'est pas facile de bloquer l'eau. Elle sent, Venise, elle-même sa fin. Elle ne veut pas qu'on la modernise, car ce serait la tuer plus vite. Et c'est vrai, si on parle de nos jours avec les Vénitiens, ils disent tous la même chose. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher parce qu'ils voient que la ville meurt. Mais en même temps, il faut que ce soit une morte lente, parce que c'est cette morte lente qui est la vie de Venise. Les propriétaires des palais ne réparent rien. Jettent les hauts cris quand on parle de remettre les pierres qui tombent. Cela détruit la patine. Il ne faut toucher à rien parce qu'on abîmerait le bibelot. Il faut dire que Venise sent parfaitement qu'on vient la voir pour sa seule curiosité. Elle ne vit plus que pour l'étranger et ce serait la mécontenter, l'éloigner, que de lui abîmer son bibelot. Les palais du Grand Canal tombent en ruine. La merveille, c'est la place Saint-Marc avec l'église Saint-Marc. Le palais ducal, le campanile, la place elle-même. Puis, partout des coins charmants, le long des canaux, le long des rues, dans la mercerie, il y a déjà l'Orient. Et là aussi, il a tout compris, avec les rues si étroites. Et d'ailleurs, il y a des quartiers de Venise qui semblent des médinas. On se croirait en Turquie ou ailleurs, ou à Beyrouth ou à Tunis. Mais la sensation d'étouffement, le sentiment qu'on est dans une île et qu'une promenade à pied, une promenade en voiture ne sont pas possibles. On étouffe. Donc cet étouffement, c'est un peu la mort annoncée de Venise que l'on essaye de sauver de nos jours, mais l'avenir n'est pas vraiment...
L'avenir n'est pas sûr.
Brillant.
Il n'appartient à personne. Merci Giovanni Dottoli de nous avoir fait partager la fascination de Zola pour l'Italie, pour les quelques grandes villes d'Italie, et le talent qu'il a pour retracer ces atmosphères et les faire revivre. Je vous rappelle que cette émission fait partie d'une série consacrée aux écrivains français voyageurs en Italie, une série animée par Giovanni Dottoli, que vous pourrez trouver sur Canal Académie en tapant tout simplement le mot-clé « Italie ». Et l'émission que nous avons réalisée sur le jardin d'Italie, je vous la conseille aussi, un art de vivre, comme vous l'avez si bien démontré. Merci Giovanni Dottoli et à bientôt pour une autre émission.
Merci Madame Renard et merci à tous les auditeurs de Canal Académie qui se passionnent pour mon pays.